Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ingénieur Avenir. Aujourd'hui, je reçois Blaise Rebaud, un jeune ingénieur chercheur avec qui on va parler notamment de thermique des bâtiments et de la différence entre le public et le privé dans le monde passionnant de la recherche. Bonne écoute! Bonjour Blaise, bienvenue dans le podcast Ingénieur Avenir, ça va ?
Ouais, ça va bien et toi Léo ?
Eh ben, merci, moi aussi, et puis surtout heureux de te recevoir dans le podcast. Alors Blaise, tu as 27 ans et tu es diplômé du département mathématiques appliquées à l'INSA Toulouse en 2017. Après une thèse entre l'INSA de Lyon et le CEA, tu as fait de la recherche dans une école d'ingénieurs genevoise et finalement tu travailles depuis octobre 2022 dans une entreprise privée, SOMFI. Alors Blaise, c'est quoi ton métier ?
Alors, depuis octobre 2022, je travaille au sein de SOMFI en tant qu'ingénieur thermicien.
D'accord.
Donc, mes missions à SOMFI sont de, en gros, de développer de nouvelles solutions pour le confort thermique et puis le confort, généralement plutôt confort thermique des habitants, visuel aussi. Et donc, de réduire aussi, au travers des solutions SOMFI, l'impact carbone de nos solutions. Et donc, c'est-à-dire réduire la consommation énergétique du bâtiment, principalement. Alors, pour bien comprendre mon métier, en fait, il faut bien voir que SOMFI, à la base, fait des moteurs de volets roulants. Et ces moteurs sont connectés. Et donc, ça veut dire que comme ils sont connectés, on peut faire un pilotage des protections en jouant justement sur les consignes envoyées à ces moteurs. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle donc l'ensemble des solutions connectées sur le bâtiment. C'est ce qu'on appelle de la domotique. Et ça, ça se fait donc de plusieurs façons. Soit c'est l'utilisateur, en gros, qui va envoyer un ordre sur le volet roulant. Donc à ce moment-là, nous, on n'intervient pas avec nos solutions. C'est purement de l'utilisateur. Soit c'est un algorithme, en fait, qui va déterminer, alors dans le cas du volet roulant, quelle est la position optimale pour préserver, soit pour des critères de confort thermique. Donc c'est-à-dire, quand on parle de confort thermique, c'est avoir une température la plus agréable possible dans le bâtiment. Donc, l'hiver, ça va plutôt être comment on peut réchauffer l'intérieur du bâtiment. Donc ça, ça va être une valorisation de ce qu'on appelle les apports solaires. Donc en gros, on va laisser le soleil rentrer au travers des fenêtres dans le bâtiment. Et l'été, ça va plutôt être l'inverse. On va plutôt chercher du frais. Donc ça va plutôt être de fermer les protections solaires pour limiter justement ces apports solaires et donc maintenir une température plus fraîche dans le bâtiment. Donc limiter en gros les surchauffes dans les bâtiments liées aux apports solaires. Bon, ça c'est pour l'aspect thermique, mais on peut avoir d'autres pilotages par rapport à des aspects de confort visuel, c'est-à-dire que c'est quand même plus agréable de vivre avec de la lumière naturelle. Et donc nos solutions qu'on cherche à pousser au travers de mon métier, notamment avec les deux collègues avec qui je travaille là-dessus, c'est de réussir à concilier ces différents critères pour proposer des solutions les plus pertinentes possibles, automatiques, pour que les gens n'aient pas à se soucier en fait de gérer à la main leur protection. C'est-à-dire que soit ils sont dans l'habitat, ben le volet va bouger tout seul en fait et va arriver sur les positions les plus optimales pour maintenir le meilleur confort possible.
D'accord. Et donc toi, ton but, c'est quoi ? C'est du coup de trouver les réglages d'ouverture de volets roulants ou de store pour optimiser la température à l'intérieur de l'habitat, c'est ça ? Et tu vas avoir peut-être des capteurs dans l'habitat ou c'est vraiment... Enfin,
Ouais.
À quoi tu touches, en fait ?
Alors, en fait, c'est comme tu dis, le but, c'est de... C'est de faire du pilotage, donc par rapport à des... Ça peut être plusieurs sources d'informations. Donc, on peut avoir des capteurs. Et là-dessus, notamment, il y a la nouvelle réglementation thermique des bâtiments qui est mise en place depuis un peu plus d'un an, qui est très contraignante, en fait, sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Et pour améliorer cette efficacité-là, aujourd'hui, dans les bâtiments neufs, il est pratiquement impossible d'avoir des capteurs à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que à partir de ces capteurs-là, notamment de température, on a une remontée d'informations qui permet de faire un pilotage des protections.
Ok. Est-ce que toi, du coup, ton métier, c'est de trouver des règles générales avec, comment dire, qui vont s'appliquer à n'importe quel bâtiment, des maisons particulières, tout ça? Ou est-ce qu'on t'amène un gros projet, je sais pas, par exemple, un collège, et toi, tu dois trouver les réglages pour optimiser la température, enfin l'ouverture des ouvertures dans ce collège?
Ouais, alors en fait, nous dans le à Somfy, on travaille surtout pour du particulier, donc c'est-à-dire c'est des maisons de particuliers, maisons individuelles ou des appartements. Bien sûr aussi, on propose des solutions pour des bâtiments issus du domaine du tertiaire, donc ça va être écoles, hôpitaux, etc. Mais donc quand on va travailler sur des maisons individuelles, et ben là on va plutôt chercher à développer des solutions un petit peu génériques. Alors éventuellement quoi. Bien sûr, il y a un paramétrage qui est fourni avec la solution, parce que on peut pas généraliser, on peut pas, par exemple, si on étudie le marché de la France, un bâtiment situé dans le sud de la France n'a pas les mêmes contraintes qu'un bâtiment situé dans le nord de la France. Rien que par le climat, on a des différences de climat extérieur, etc. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut quand même proposer un paramétrage, mais la solution en elle-même, donc, nous, on va concevoir, en fait, un algorithme qui, à partir des différentes informations remontées par les capteurs ou par notre source d'information, on va avoir un algorithme qui permet de traiter cette information-là et de la retranscrire en fait en une consigne de fermeture sur les protections, si on parle de fermeture des protections. Et donc nous, on va vraiment développer cet algorithme. Alors ça s'inscrit dans une stratégie qui est propre à toutes les boîtes qui font de la domotique. Donc c'est-à-dire quand on développe un algorithme, généralement on va essayer de le breveter, on va essayer de pérenniser en fait cette solution. Et donc après voilà, il peut y avoir un paramétrage pour l'adapter au cas par cas. Mais on va rarement, en tout cas sur les projets sur lesquels je travaille actuellement, on n'a pas de solution propre à un bâtiment. Ça peut arriver, comme tu disais, sur des très gros bâtiments. C'est plutôt des solutions au cas par cas, où à ce moment-là on va pouvoir prendre en compte toute la géométrie extérieure, donc des autres bâtiments, etc. Donc ça, c'est pas mon équipe qui fait ça, mais on est en lien quand même avec eux. Et eux, ils vont, par rapport à la cartographie de l'environnement, générer une fermeture des protections propre au bâtiment en question. Donc par exemple, si on a un nouvel immeuble sur lequel cette solution est implémentée, on va prendre en compte les immeubles environnants et les ombres projetées en fait de ces immeubles-là sur notre bâtiment d'études. Et on va gérer les fermetures des protections solaires, notamment par rapport à ça, pour pas générer, si c'est des bureaux par exemple, pas générer d'éblouissement dans les bureaux et préserver un confort.
Ok. Ah ouais, c'est poussé quand même comme truc. Ok.
Ouais, c'est assez poussé.
D'accord. Et du coup, à quoi ça ressemble pour toi une journée type quand tu arrives au bureau? Déjà, à quoi ressemble ton bureau? Est-ce que c'est plus un labo? Est-ce que c'est juste un PC avec un clavier? Et puis, qu'est-ce que tu fais dans ta journée?
Ouais, alors moi, je suis dans un... On peut appeler ça un labo. Donc, il y a différents domaines de compétences dans mon équipe. Donc, on a un peu tous les... Alors, moi, je suis au pôle expertise de Somfy. Donc, on a un petit peu tous les domaines d'expertise, on va dire, de Somfy. On en a certains qui font de la radio, certains de la mécanique, parce que comme on fait des moteurs de volets roulants, la mécanique, c'est le principal métier qu'on va retrouver, disons, chez Somfy. Donc, la mécanique, ça va être tout ce qui va être développement de moteurs, motorisation. Ça va être aussi de la mécanique, disons, de pièces, vraiment, voilà, donc tout ce qui est roues crantées, etc. Et puis aussi, carrément, des pièces plus porteuses, mais ça, c'est moins mes domaines de compétences. Et puis voilà, donc côté radio avec beaucoup plus d'électronique. Et alors pas au sein de mon équipe, mais on a aussi des équipes soft pour implémenter après les solutions, parce qu'il y a ce qui vient avec un moteur, surtout s'il est connecté, c'est du soft. Donc on a quand même des grosses équipes soft. Okay, ouais. Et puis bon, comme on est nombreux, il y a aussi tout ce qui est gestion de projet comme dans une boîte plus classique. Et mon bureau, donc pour en revenir à mon bureau, c'est un bureau assez classique, donc avec un ordinateur. Comme je passe du temps sur l'ordinateur, j'ai deux écrans. Voilà, c'est quelque chose de très informatique. Par contre, on passe quand même du temps. Alors, ma journée va être scindée en plusieurs activités. Je vais avoir un temps lié plutôt à faire de la recherche bibliographique. Donc ça, c'est un côté plus recherche. On va regarder un petit peu ce qui se fait, regarder des articles scientifiques, voir un petit peu les solutions, ce que propose la recherche. Mmh. On va éventuellement retenir quelques-unes, on va un petit peu les explorer. Les explorer, ça peut vouloir dire recoder quelques... Par exemple, si on va trouver une solution de pilotage, je sais pas moi, de volet roulant, un petit peu par rapport à d'autres critères que ceux qu'on utilise, ou pour un type de protection un peu particulier, alors comme on appelle des BSO, donc c'est des brises soleil orientables, ce sont les petites lames horizontales qui peuvent s'incliner à différents angles pour générer en gros de l'ombre à l'intérieur, mais laisser une visibilité vers l'extérieur. Eh ben, ça peut être recoder un petit peu cette solution-là, la tester, l'améliorer, ou en reprendre juste des idées qu'on implémente ailleurs. Voilà. Donc, il y a une partie de bibliographie, il y a une partie où on est en soutien sur les projets. Donc, il y a des projets où, justement, on a un nouveau produit qui veut embarquer une solution pour gérer les protections. Et ben, nous, on est en soutien, donc on va développer peut-être l'algorithme, on va suivre son implémentation. Donc, il y a beaucoup d'informatique, mais il y a aussi une petite partie de test parce qu'on a des enceintes climatiques sur lesquelles on peut simuler, par exemple, mettre un capteur dedans et puis simuler à partir de ce capteur-là les différentes réponses générées sur une protection. Donc ça, c'est des premiers tests une fois que le soft est implémenté dessus. Et puis voilà, après, on a aussi du temps... où on va être force de proposition pour de nouveaux projets ou des projets qu'on suit d'un peu plus loin. Ça, c'est des projets où il y a des plus grosses équipes, c'est peut-être un peu plus loin dans la stratégie de Sophie. Et puis voilà.
Ok. Et tes interlocuteurs là-dedans, donc t'as des collègues, comme tu disais, de ton équipe, est-ce que t'as peut-être des techniciens? Je sais pas si tu dois utiliser des bancs d'essai ou des trucs comme ça.
Niveau interlocuteur, donc je vais être beaucoup amené. Alors nous, on travaille à trois, en gros, sur tout ce qui est un peu volet thermique, domotique au sein du PCE. On est trois docteurs, donc on a tous les trois une thèse. Donc moi, j'ai plutôt une thèse en thermique énergie, mon collègue aussi, et ma collègue a plus une thèse en intelligence artificielle. Okay. Et après, sur le développement, je suis amené à être en contact avec justement des profils plutôt soft, où là, quand on a développé un algorithme, eux vont l'implémenter. Et plutôt des profils aussi de techniciens, comme tu disais, sur des bancs d'essai. À ce moment-là, on va aller voir les techniciens pour qu'ils puissent jouer les essais que l'on souhaite réaliser sur le produit. Ouais. Et on est aussi en lien avec des équipes plus market, parce que justement, quand on pousse une nouvelle solution, il faut voir si elle séduit, quelle portée elle peut avoir, qui est concerné, etc.
Ok. Ah, c'est intéressant, ouais, d'intégrer le marketing dans la recherche. Est-ce que, d'un point de vue hiérarchique, est-ce qu'il y a beaucoup de monde au-dessus de toi qui prend les décisions? Tu avais l'air de dire que tu étais quand même assez libre dans quelle direction un petit peu tu vas aller. Mais tu as aussi parlé d'un aspect stratégique. À quel point tu es guidé, en fait, dans ton métier?
Alors, nous, on travaille vraiment, comme je disais, à trois. Donc, on est tous les trois docteurs. On se demande des avis entre nous. Il y a des choses, des fois, qu'on fait en commun parce qu'on va un peu plus vite, parce qu'on a directement nos deux idées, nos trois idées qui s'imbriquent. Donc, ça fonctionne beaucoup comme ça. Notre chef de service, on va dire, il gère des métiers très différents. Comme je disais, il y a de la mécanique, il y a de l'électronique. Donc, lui, disons qu'il nous chapeaute un petit peu, mais il n'est pas trop sur nous. On est assez libre dans ce qu'on veut faire. Il est plus là pour vérifier que les projets suivent bien leur cours, que les objectifs, en gros, sont tenus. Et puis, il est là pour amener aussi, des fois, de nouveaux projets, un peu de matière à explorer. Voilà, donc il pilote tout ça, mais d'assez loin finalement.
D'accord. Tu as parlé de thèse tout à l'heure. Alors, moi, j'avais des questions par rapport à ton orientation. Tu as eu ton diplôme d'ingénieur en 2017, donc ça fait déjà un petit moment. Qu'est-ce que tu avais dans la tête à ce moment-là et qu'est-ce qui t'a orienté vers une thèse ?
Alors, quand j'ai fini mon diplôme d'ingénieur, donc d'ingénieur en mathématiques appliquées à l'INSA de Toulouse, je voulais. Alors, c'est un diplôme qui, initialement, je pense, est plutôt destiné à aller vers de l'aéronautique. On avait beaucoup de mécanique des fluides, beaucoup de ce genre de matière. Et moi, je voulais plutôt aller vers tout ce qui est bâtiment. En fait, avant de savoir que je ferais une thèse, j'avais même commencé à avec Claude Marange, je m'étais arrangé, donc qui à l'époque à l'INSA était un petit peu responsable des. Alors, je sais plus quel rôle il avait exactement, des orientations peut-être. Mais en tout cas, je m'étais arrangé pour faire un double diplôme génie mathématique, génie civil. Et donc j'avais commencé à suivre des cours durant mon stage de fin d'études de génie civil pour en gros me remettre à niveau. Et mon stage de fin d'études, je l'ai quand même orienté dans cette optique-là. Donc j'avais cherché un stage où je pouvais mettre à profit mes compétences en mathématiques appliquées pour le bâtiment. Donc c'est comme ça que j'ai été amené à faire un stage en fait à l'INES, donc c'est l'Institut National des Énergies Solaires. Et en plus particulièrement au sein de l'INES au CEA, donc le CEA fait partie de l'INES. Et donc le CEA c'est le Commissariat à l'énergie atomique. Et au sein du CEA, il existe un département qui est le département des technologies solaires, le DTS. Et alors c'est un petit peu changé récemment, mais à l'époque il existait un service qui s'appelait le service SBST, donc service bâtiment et système thermique. Et donc au sein de ce service, j'ai été amené à faire un stage sur du pilotage de ventilation mécanique.
D'accord.
Donc le but ici c'était de, on a une ventilation mécanique dans le bâtiment et on a en gros trois contraintes. C'est la qualité de l'air à l'intérieur du bâtiment, on veut pas avoir un air trop pollué. On a l'efficacité énergétique, en gros, du système de ventilation. C'est-à-dire qu'on veut un système de ventilation qui soit pas en fonctionnement continu, sinon on va consommer de manière démesurée, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc on veut qu'il soit là juste de manière suffisante, en gros, pour garantir nos objectifs de qualité d'air. Et puis on avait un dernier critère qui était de pas générer trop de nuisances. Donc c'est-à-dire qu'on veut pas avoir une ventilation qui, tous les 5 minutes, s'allume, s'éteint, s'allume, s'éteint.
Ouais.
Et donc ce stage s'est très bien passé. Donc on a fait un article scientifique, la méthode qu'on a mise au point pour gérer la ventilation a été brevetée. Et à la suite de stage, ils m'ont proposé. En fait, j'ai même eu beaucoup de chance parce qu'ils m'ont laissé le choix entre trois sujets de thèse. Et ils m'ont dit voilà, si tu veux faire une thèse, il y a ces trois sujets là.
Et est-ce que toi, tu voulais déjà faire une thèse avant ?
À ce moment-là, quand je suis arrivé en stage. Honnêtement non, je m'étais pas projeté en thèse. Et puis le stage au travers de cette méthode donc qu'on a implémentée pour de la ventilation avec l'article scientifique qui est allé avec et la rédaction d'un brevet, en parallèle de ça, j'ai un petit peu suivi des essais qui étaient faits sur d'autres méthodes de ventilation. En fait, à l'INES, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il y a des maisons tests qui sont pas habitées. Il y a quatre maisons témoins qui sont à peu de choses près les mêmes. Et qui dans chaque maison témoin, il y a deux pièces identiques. Ce qui permet par exemple de tester de la ventilation, un système de ventilation dans une, et d'avoir la pièce témoin à côté. Et puis de faire une comparaison et d'évaluer les gains générés par le système de ventilation dans la pièce test. Et donc j'ai pu suivre un petit peu des essais comme ça. Et donc tout ça, ça m'a donné quand même une certaine envie de poursuivre là-dedans. Donc de continuer. Donc j'ai eu la chance que cette équipe me propose différents sujets de thèse. Moi j'étais très bien intégré dans l'équipe à ce moment-là et donc avec l'envie d'aller plus loin sur ces domaines de recherche, et c'est là où du coup je me suis dit non, je vais pas faire un double diplôme INSA génie mathématique, génie civil, en fait je vais continuer en thèse à l'INES. Voilà.
Ok, super.
Et donc j'ai changé juste de laboratoire dans le même service, et j'ai donc sur les trois sujets de thèse, il y en avait un qui me plaisait beaucoup, qui était sur tout ce qui est les technologies photovoltaïques en fait pour le bâtiment, et plus particulièrement ce qu'on appelle BIPV. Alors ça vient de l'anglais, c'est Building Integrated Photovoltaic, et en fait c'est tout ce qui est du photovoltaïque intégré directement au bâtiment. C'est-à-dire que c'est des technologies photovoltaïques qui sont plus seulement apposées sur le bâtiment, c'est-à-dire on va pas aller sur le toit mettre des panneaux solaires, mais à la place on va plutôt proposer une solution photovoltaïque qui va remplacer la tuile. C'est-à-dire que le photovoltaïque devient un composant propre du bâtiment. En l'occurrence, s'il remplace de la tuile, il va assurer l'étanchéité de la toiture.
Ok. D'accord.
Voilà. Et donc le sujet était orienté là-dessus, mais en réalité, il concernait plus la comment on évalue le potentiel pour ces technologies-là en milieu urbain. Donc c'est beaucoup de calculs d'ensoleillement en milieu urbain.
Okay.
Donc moi, ça me plaisait parce que ça me permettait de m'intéresser au domaine de l'énergie dans le bâtiment tout en m'appuyant sur les compétences que j'avais acquises à l'INSA en mathématiques appliquées. Et donc, durant cette thèse, on a développé plusieurs modèles pour évaluer finalement le potentiel solaire. Alors, quand on parle de potentiel solaire, en fait, c'est on cherche à savoir combien d'énergie solaire on a sur notre bâtiment. Et en fait, l'idée, c'est pas d'avoir juste de dire sur cette façade-là, on a tant d'énergie. C'est de se dire, sur cette zone-là de la façade, on a tant, sur cette zone-là, on a tant, etc. Donc, en fait, on fait un maillage de l'environnement urbain. Quoi, du bâtiment, mais aussi de l'environnement urbain. Parce qu'on a besoin de savoir quelles sont les ondes projetées. Et donc, comme c'est un travail de thèse, on avait même besoin de savoir quels sont les matériaux qui composent notre environnement. Parce que du coup, on a de la réflexion. On va avoir de l'énergie qui arrive par réflexion. Et donc, tout le travail, en fait, pendant 3 ans, a été de comment bien le modéliser. Donc, on a fait des modèles sur la première année. 2 modèles, notamment. Et ces modèles, après, on les a, dans un second temps, le but, ça a été de les tester, notamment faire de la mesure, en fait. Donc, pendant ma deuxième année de thèse, j'ai passé du temps à construire une maquette qu'on a mis en milieu extérieur avec des petits capteurs qui peuvent mesurer l'ensoleillement. Mmh. Et on caractérisait les matériaux de la maquette. Et, en gros, c'était ce qu'on appelle un canyon urbain. C'est, il faut imaginer un U avec chaque côté du U est un bâtiment. Et donc, c'est une rue, en fait, comme un canyon.
Ok.
Et donc, ces petits capteurs étaient implémentés au sein de ce U-là, donc sur chaque façade et au niveau du sol. Et en connaissant les propriétés des matériaux de chaque côté, du coup, et au sol, on pouvait les implémenter dans les modèles développés et puis vérifier si les courbes correspondaient, si l'ensoleillement correspondait entre le modèle et la mesure.
D'accord. Et moi, j'ai une question par rapport à tout ça, que ce soit ton stage de fin d'études ou ta thèse, c'est très applicable en fait. J'ai pas envie de dire appliqué parce que c'est tu construis pas des maisons encore où des gens habitent dedans, mais c'est très applicable. C'est des trucs qui peuvent être ta ventilation, ça peut être utilisé sur des chantiers, tu vois. Et à quel point tu sais, toi, ce qui peut se passer derrière, c'est-à-dire que le brevet, il est posé, et est-ce qu'il y a des utilisations commerciales derrière? Est-ce que les solutions que tu as trouvées qui sont intéressantes, elles sont utilisées derrière sur des vrais travaux, sur des vrais chantiers?
Alors ça a un petit peu changé depuis que je suis à Somfy, parce que depuis que je suis à Somfy, en gros, on le développe pour un produit, on sait que le produit, on a un horizon où on sait à partir duquel il part en production, et donc il va se retrouver réellement chez des gens. Mais avant, quand j'étais au CEA, alors au CEA, c'était plus de la recherche amont. C'est-à-dire que l'application derrière, on la voit pas forcément. Typiquement, le brevet déposé pendant le stage, c'était plutôt, ça fait partie de la stratégie du CEA de se protéger. C'est-à-dire qu'ils ont une idée, ils considèrent que l'idée est innovante, qu'elle peut être utilisée. Ce sera peut-être pas l'idée finale qui sera mise en pratique, mais par contre, c'est une idée qui est importante. Donc, il faut la protéger, donc on fait un brevet.
D'accord.
Par contre, ce qui est intéressant avec ce que tu dis, c'est quand j'ai travaillé en Suisse, là, pendant 1 an et demi. Donc, en fait, au sein d'un labo de recherche intégré à une école spécialisée.
Donc, ça, pour resituer, c'est après ton doctorat, t'es allé dans une école en Suisse, une école d'ingé en Suisse, et t'as fait, c'est quoi, post-doctorat, c'est ça?
Ouais, alors en fait, ils peuvent pas proposer de contrat de post-doctorat. Mais donc, c'était un contrat qu'ils appellent de collaborateur scientifique, mais dans l'esprit, c'était un petit peu du post-doctorat. Okay. Et alors, pour bien contextualiser, du coup, quand j'ai fini ma thèse, donc qui consistait finalement à évaluer des ensoleillements et du potentiel solaire en ville, j'ai contacté, donc cherché un petit peu à rester dans la région, et puis j'ai contacté Gilles Dessieux, qui est professeur dans cette école-là. Et il s'est avéré que, petit coup de chance, Gilles, à ce moment-là, était assez intéressé par mon profil. parce que il travaille justement sur des cadastres solaires, donc des grandes cartes où en chaque toiture il a le potentiel solaire de la toiture. Et donc c'est des grandes cartes. Quand on parle de grandes cartes, c'est plusieurs kilomètres carrés parce que c'était ce qu'on appelle le Grand Genève. Donc c'est des projets transfrontaliers. Donc le Grand Genève, c'est à la fois la France et la Suisse. Et lui, il avait le potentiel solaire qu'en toiture. Et il était intéressé par également l'avoir en façade. Et donc quand je suis arrivé dans ce labo, Gilles m'a dit bon ben voilà, il faut qu'on calcule le potentiel solaire avec une résolution de 1 mètre carré sur toutes les façades du Grand Genève. Et moi je suis arrivé, je me suis dit mais c'est pas possible, en thèse on n'arrivait pas à faire plus de 200 mètres carrés. Et pas avec des données réelles en plus. On redessinait à la main les quartiers. Voilà. Je me suis dit c'est pas possible. Et en fait on a réussi. En fait on a réussi. Alors en fait on a utilisé pour avoir les points des vrais bâtiments sur une telle surface, on a utilisé ce qu'on appelle des données LIDAR. Donc on a un avion qui survole Genève ou une autre région, peu importe, et qui bombarde en gros, si tu veux, de ouais.
Ça peut pas se faire avec des données satellites, ça ?
Ouais, ben le problème des données satellites, c'est que t'as pas la même résolution. LIDAR, t'es quand même hyper précis. T'es hyper précis et du coup, ben tout ce qui est petite cornière, petit angle et tout, tu les as. Et donc une fois qu'on avait tous ces points là, en gros, du coup, t'obtiens un gros nuage de points qu'il faut un peu filtrer. Donc t'as tout, t'as les bâtiments, les arbres, etc. Et donc on a recalé à Genève, ils ont la chance d'avoir un cadastre. Donc un cadastre, en gros, c'est une carte avec l'empreinte des bâtiments au sol, très précis. Et donc on a recalé les points du LIDAR sur le cadastre, et on a pu voir exactement les points qui correspondaient aux bâtiments. Donc à partir de là, on a réextrudé les bâtiments. Donc on avait ce qu'on appelle de la 2,5D. On dit 2,5D parce que par exemple l'Arche de la Défense ressemblera à un unique bâtiment. On n'aura pas l'arche comme un pont, quoi.
D'accord. Mais tu arrives quand même à voir les façades.
Ouais, bien sûr, on a les façades. Ouais. Si tu veux, au niveau de l'Arche de la Défense, on aura une façade uniforme. On n'aura pas de trou en dessous. D'accord. Ça, c'est un peu des limitations. Mais en tout cas, donc on a récupéré tous les bâtiments comme ça, avec du coup les pentes en toiture. Vraiment, voilà, nickel. Et puis, à partir de ça, on a remaillé avec un mètre de résolution. Donc, on ne pouvait pas vraiment mailler avec des mailles au sens propre. Donc, en fait, on a fait des points. Et on a reconstruit des mailles fictives autour de ces points-là. Et on a réussi à appliquer une des méthodes que j'avais développées pendant ma thèse là-dessus. Et alors, on a un peu adapté le modèle. Donc, là-dessus, ben, c'était assez, assez cool. Parce qu'en un an et demi, on a fait de nouveau un article scientifique. On est allé présenter à l'occasion du lancement d'un nouveau projet, on est allé présenter notre idée en Norvège. Okay. On avait été interviewé par la télé, donc c'était assez assez rigolo. Et donc quand je suis parti, c'était fin septembre 2022, ben la solution allait être implémentée donc nous c'était du prototypage, en l'occurrence c'était en MATLAB. Okay. Allait être implémentée en C. Pareil, toute une équipe, donc le but c'était de rendre le modèle plus, on va dire, plus véloce et de pouvoir le tester sur d'autres quartiers, éventuellement à plus grande échelle. Nous on arrivait à calculer, alors on n'arrivait pas à calculer tout à fait sur le Grand Genève, on arrivait à calculer par bloc de 1 km carré. Okay. Et donc, mais c'était déjà énorme, quoi. Et donc, là, maintenant, le but pour Gilles et puis ses collaborateurs, c'est de justement réussir à rendre cette méthode applicable sur tout le Grand Genève, voire plus.
D'accord. Voilà. D'accord. Et ce modèle-là, du coup, il tient compte des ombres projetées, des réflexions des matériaux, des bâtiments que tu as autour,
ouais,
tout ça ?
Il tient compte des ombres projetées, et comme en plus c'est du LIDAR, on avait aussi les arbres, donc il tient compte des ombres projetées par les arbres. Alors les arbres, c'est toujours un peu délicat parce que si l'hiver t'as pas de feuilles, c'est pas la même ombre projetée que l'été. Ouais. Mais donc en tout cas là, ils étaient pris en compte. On avait, alors ce qui est énorme avec le LIDAR aussi, c'est que tu peux savoir en gros quel matériau tu as au sol. Donc on savait quel matériau on avait, donc à partir de là, on pouvait aller repointer vers une base de données qui nous donnait en gros les propriétés qu'on appelle d'albédo, donc c'est en gros les coefficients de réflexion de ces matériaux-là. D'accord. Et donc ça nous permettait d'être assez précis sur les réflexions. Et alors ça, pour valider le modèle qu'on avait un peu simplifié pour pouvoir calculer à si grande échelle, on a comparé avec des résultats de ma thèse. Mm-hmm. Et donc les résultats collaient très très bien. Et là, aujourd'hui, ben, tu m'avais parlé d'anecdotes. Là-dessus, il y a quand même une anecdote, un truc qu'on a fait en parallèle. On s'est dit, ben, ok, il faut quand même qu'on valide ces mesures avec de la mesure réelle, quoi. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'on mette des, ce qu'on appelle des pyranomètres en ville. Donc, des pyranomètres, ce sont des appareils qui permettent de mesurer l'ensoleillement en points. C'est un petit appareil, voilà, ça fait un petit dôme. Et en fait, c'est une thermopile. En gros, plus ça chauffe, plus on sait qu'il y a d'énergie solaire. Et voilà. En gros, c'est un peu ça. Okay. Et donc, on en a mis en ville. Là, ça a été compliqué parce qu'il a fallu trouver, en gros, nous, ce qu'on voulait, c'était un peu reproduire le phénomène du canyon urbain, comme dans ma thèse. Donc, c'est-à-dire trouver deux bâtiments qui se font face, avec une rue où on n'avait pas trop de masques, pas trop de voitures, parce que s'il y a des voitures stationnées, ça peut générer des réflexions qu'on dit spéculaires, donc un petit peu comme sur un miroir. En gros, des gros reflets de soleil sur les capteurs, c'est pas très bon. D'accord. Ça va fausser les mesures. Et puis donc, pas trop grande distance entre les bâtiments pour quand même avoir de la réflexion. Et on s'est dit, ben, quand on aura une rue comme ça, on va mettre des pyranomètres en façade des deux côtés. Alors là, s'il y en a qui connaissent, ils vont un peu s'arracher les cheveux, parce que normalement, un pyranomètre se met pas de manière verticale, mais il n'y a pas de capteur qui marche bien en vertical pour mesurer l'ensoleillement. Donc, nous, on a... voilà. Ça, c'est un peu le côté de la recherche, c'est que des fois, tu arrives sur un petit peu des problématiques qui sont nouvelles, il n'y a pas vraiment de solution, et ben, donc, t'essayes, t'as des contraintes de temps, t'as des contraintes de budget. Donc là, moi, j'avais plein de pyranomètres à disposition, je fais, ok, on va mettre ça comme capteur, quoi. Puis on va. Donc, on a fait quelques essais, ça marchait assez bien. Et donc, on a dû fabriquer tout un système. Alors, il a fallu trouver les bâtiments. Donc ça a été compliqué parce qu'il faut trouver des bâtiments publics où tout le monde soit d'accord. Moi, je me suis retrouvé à aller chez les occupants, leur demander s'ils étaient d'accord pour qu'on mette. Donc là, j'ai dû expliquer à des gens qui sont pas du tout sensibilisés à la problématique qu'on allait leur mettre un petit capteur sur leur façade, que sur leur façade, quoi, sur, au niveau du garde-corps, en fait, de leur balcon. Qu'on allait également, alors pour être tout à fait précis, c'était pas des garde-corps de balcon, c'était des garde-corps de fenêtre, parce qu'on voulait pas de balcon, parce que des balcons, justement, ça fait un peu des ondes projetées sur les étages en dessous, c'est pas très bon. Et donc, sur les garde-corps de fenêtre, que comme le capteur était autonome, on allait mettre aussi un petit panneau solaire pour l'alimenter, mais que le panneau solaire, c'était pas pour eux, quoi, c'était vraiment que pour le capteur. Et du coup, ça a été, moi, je pensais que ça serait pas très sport, que les gens comprendraient et tout, et en fait, ça a été très sport. De leur expliquer, de vraiment.
D'accord.
Voilà. Et puis, après, il a fallu avoir toutes les autorisations de la ville de Genève, notamment parce que les bâtiments qu'on avait trouvés étaient des bâtiments, un petit peu protégés, donc il fallait pas qu'on abîme les garde-corps, donc il fallait montrer que le système de fixation était solide, qu'il puisse pas tomber dans la rue, en gros. Que ça abîmait pas, que voilà. Donc, ça a été un peu compliqué. Et au final, ça s'est fait. Donc, ça s'est fait juste après que moi je sois parti. Mais bon, comme je m'entends bien avec eux, j'ai quand même un peu des nouvelles et je sais que là, ça tourne, que du coup, ils vont récupérer les données, une première partie des données bientôt. Et qu'ils pourront comparer justement avec le modèle, les calculs du modèle sur cette zone-là.
Quand tu cherchais un boulot, donc après cette expérience à Genève déjà, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu aller vers le privé ?
Ouais, alors c'est une bonne question. Non, alors en fait, il y a eu plusieurs choses. À Genève, donc je travaillais essentiellement sur les projets de cadastre solaire, mais pas que. Il y avait d'autres projets où j'intervenais plus sur du traitement de données, etc. Sur des projets qui sont assez intéressants, mais qui me convenaient moins. Donc c'est des projets, sur lesquels je me lassais un peu et j'avais envie de changement. Et puis même les cadastres solaires, j'avais fait ça pendant 3 ans pendant ma thèse, presque 2 ans en Suisse. J'avais envie de voir un petit peu autre chose. Et puis j'avais envie de voir un peu le secteur privé, parce qu'en recherche, c'est vrai qu'il y a des deadlines Alors en Suisse, on avait des contrats avec des ça dépend, c'était variable. Ça pouvait être des industriels, ça pouvait être le canton, etc. Ou des organismes publics. Mm-hmm. Mais c'est pas, disons que c'est pas les mêmes deadlines. T'es un peu plus isolé, c'est un peu plus, y a plus d'inertie, quoi. Disons, c'est pas les mêmes contraintes de temps. Donc j'avais envie de, ben, de voir un peu autre chose, notamment comment ça marche dans l'industrie, parce que j'avais envie quelque, je pense, hein, de voir que mon travail il était utilisé à plus courte échéance. En gros, ça servait plus rapidement aux gens, quoi. Et Somfy, là-dessus, ça correspondait bien parce que, ben, quand on met au point un nouveau produit qui propose en gros un nouveau service pour du confort thermique ou ça, eh ben, on a des échéances assez courtes, mine de rien. Et puis, après, il y avait des contraintes, on va dire, géographiques. Donc, après ma thèse, moi, je voulais rester dans la région, dans l'arc alpin, on va dire. Et donc, aujourd'hui, moi, j'habite sur Sallanches. Donc, en fait, quand j'étais en Suisse, j'étais à 80%, ce qui fait que j'allais à Genève 3-4 fois par semaine. Donc là-dessus, ben, il y a beaucoup de frontaliers, donc ça permet de faire du covoiturage, etc. Mais mine de rien, c'est un certain temps de trajet. Et moi, je voulais réduire ce temps de trajet. Et là-dessus, comme tu l'évoquais, il y avait une conscience, on va dire, un petit peu écologique. Donc moi, je voulais un petit peu réduire mon empreinte. Là, en étant donc Somfy est à Cluses, donc c'est dans au bout de la vallée de l'Arve. Si la vallée de l'Arve, on considère que c'est pas vraiment le bout, mais c'est dans la vallée de l'Arve.
Ouais.
Et en habitant à Sallanches, ça me permet de prendre le train pour y aller. Donc tu vois, je mets porte à porte, je mets 25 minutes. Donc vélo. Et ben voilà, je trouve que par rapport aux problématiques actuelles, c'est plus responsable de pouvoir faire ce type de déplacement.
Et, ouais, ouais. Voilà.
Et par rapport à ton métier en lui-même, est-ce que tu as l'impression d'avoir un impact? Enfin, est-ce que ça joue aussi dans ton métier directement?
Ouais. Ben là-dessus, Somfy a quand même une vraie éthique de réduire en fait l'empreinte, on va dire énergétique, un peu tout horizon. C'est-à-dire que on a pour volonté de proposer des solutions qui permettent de réduire l'impact énergétique des bâtiments. Si tu veux, les fenêtres en hiver, on peut les voir un petit peu comme des petits radiateurs solaires. C'est-à-dire que si le soleil rentre dans le bâtiment, mm-hmm. ben, ça contribue à faire remonter la température de ton bâtiment. Et si tu optimises un petit peu ces ouvertures-là, et ben tu contribues à réchauffer ton air. Maintenant, à l'inverse, dès qu'il y a plus de soleil, il faut penser à refermer les protections, sinon l'échange se fait plutôt dans l'autre sens. Et puis l'été, comme on disait au tout début, c'est plutôt l'inverse. On va plutôt fermer les protections pour préserver la fraîcheur. Donc bon, il y a d'autres solutions, et là je reste beaucoup sur celle-là pour faire simple, mais au travers de ces solutions assez simples... Alors, quelqu'un qui est très consciencieux, il fera la même chose. Là-dessus, c'est évident. Mais l'idée, c'est d'apporter du confort à l'utilisateur qui n'est pas à penser à le faire. En gros, que le ouais. système domotique le fasse pour lui. Et puis, comme c'est quelque chose qui est automatique, ça va pas oublier. C'est-à-dire que, ben, t'es quelque part, t'es au mieux de ce que tu peux faire en termes d'efficacité énergétique par ouais. rapport à ces systèmes-là. Bon, bien sûr, t'as un moteur, t'as donc un peu ces consommations-là. Mais il faut, Somfy, voilà, veille à ce que la balance soit positive quand même.
Ouais. Ok, super. Tiens, j'ai une dernière question avant de finir parce que c'est comment dire? En général, en fait, la plupart quand même des ingénieurs qui sortent de l'INSA que je peux interviewer, il y en a quand même beaucoup qui se retrouvent assez vite sur des fonctions managériales, des trucs de gestion d'équipe, tout ça. Bon, alors, la plupart n'ont pas fait de thèse aussi. Mais je veux dire, est-ce que toi, c'est quelque chose qui a rentré en compte à un moment dans ton orientation? Et est-ce que c'est une vraie volonté pour toi de rester dans l'expertise technique ou est-ce que tu voudrais un jour passer plus du côté managérial, je sais pas.
Bah écoute, c'est une question des fois que je me pose. Après, tu vois, moi je suis assez jeune, j'ai 27 ans. Je me dis, j'ai fait une thèse, ça serait dommage de passer directement du côté managérial et de pas la mettre un petit peu en application, pas mettre un peu en application toutes les compétences que j'ai acquis durant ces années. Moi, j'ai la chance d'avoir un poste, comme je disais, où je suis assez libre au niveau de la recherche. Et donc, c'est quand même une vraie opportunité pour proposer des solutions et voilà, et être d'une façon vraiment moteur sur des solutions qui peuvent apporter, je pense, de réels changements. Quand j'étais en Suisse, c'était assez pareil. Hein, j'étais assez libre de conseiller aussi pour de nouveaux projets. Donc ça, c'est un petit peu l'avantage, par contre, quand tu es en recherche, c'est que tu vas des fois plus parler avec des institutions publiques, etc., des organismes publics. Et des fois, les projets mettent plus de temps à être mis en application, mais ils ont une portée sur le long terme peut-être plus grande. Parce que justement, ils vont aboutir à de nouvelles réglementations, ils vont aboutir à de nouveaux conseils, ils vont être repris par certaines boîtes, mais des fois à grande échelle. Donc c'est super intéressant. Par exemple, je sais que là, sur Genève, ils veulent construire de nouvelles tours, et l'outil de cadastre solaire, ils s'en servent justement pour veiller à ce que les ombrages générés par ces nouvelles tours ne soient pas problématiques pour les bâtiments environnants. Donc c'est quand même des outils qui servent, voilà. Et pour en revenir à la question de manager, ben si, pour plus tard, des fois j'y pense, mais je me dis que bon voilà, à 27 ans, j'ai le temps de faire un peu de technique avant de l'être, parce que sinon ça, je vais faire 35 ans de manager, ça va être un peu long.
D'accord, et ben merci Blaise. Je crois que c'est tout pour les questions de mon côté. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter avant la fin de cette interview?
Non, rien de particulier, mais je tenais à te remercier déjà pour l'invitation. Et puis, je tiens à remercier un petit peu l'INSA pour le diplôme en mathématiques appliquées et toutes les compétences que j'ai pu développer au travers de ce diplôme-là. C'est un diplôme qui, en l'occurrence, est assez riche, que j'arrive à utiliser dans beaucoup de domaines. Et puis, voilà, au cours de mes années à l'INSA, j'ai quand même développé une vraie faculté à pouvoir m'adapter sur les différents domaines. Ce qui m'a permis de faire ce stage qui sortait déjà un petit peu du scope des mathématiques appliquées. Puis de faire une thèse qui sortait également un peu, mais par un autre encore un peu différente. Puis de revenir un peu sur la domotique après son fil. Mais d'avoir un parcours assez varié, et puis ça, c'est chouette, quoi.
Eh ben, Blaise, merci encore pour ton temps.
Merci à toi, Léo. Ciao.
Et voilà, cet épisode est terminé. Merci encore à toi Blaise pour nous avoir partagé ton expérience. Si le monde de la recherche vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode 21 avec Aitriofan dans lequel on parlait de thermodynamique. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes en cherchant Ingénieur Avenir ou INSA dans votre application de podcast préférée. Ingénieur Avenir est disponible sur Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify et toutes les autres applications de podcast. Ce podcast a été enregistré et réalisé par Léo Pernet-Munier avec l'aide d'Amélie Berthe. Ce podcast est le fruit de la collaboration de la pépinière Alumni INSA Lyon, entité junior d'Alumni INSA Lyon, avec la chaire Ingénieur INSA, philosophe en action. Et moi je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode du podcast Ingénieur Avenir.